Cette fois, nous allons reprendre l'alezan de Cortés. Nous allons nous retrouver sur la chaise à porteurs de Montezuma. On va s'arrêter face à face, ces deux personnages, ce moment historique où l'Occident rencontre l'Amérique. Nous allons suivre la bataille de Mexico. Nous allons vivre avec Cortés, avec les Aztèques, cet instant crucial qui vous permettra de vous introduire dans la ville peut-être la plus belle du monde, une ville en tout cas qui était la plus peuplée du monde à l'époque, de la prendre de l'intérieur, de voir fuir en compagnie de Cortés et espérer retrouver les trésors, le trésor de Montezuma. Cortés est là, il est sur son cheval, juste en face. Maintenant, Montezuma descend de sa chaise à porteur. Il pose ses sandales d'or sur des tapis de coton qui ont été déroulés devant lui. Et les deux armées sont immobiles. Vous êtes sur une des plus grandes digues de ce lac sur lequel est posée la ville de Mexico-Tenochtitlan. Vous êtes là le 8 novembre 1519, en présence de ces deux armées qui sont bloquées, qui sont front à front. Brusquement, vous avez silence aussi qui est étrange, et vous avez surtout la fin de ce tumulte. On n'entend plus que le vent sur ce lac à peine flétri, très doux, un lac peu profond, 1 mètre, 1 mètre 50. C'est vraiment une lagune plutôt marécageuse, quelque chose d'un peu étrange, puisqu'à l'horizon, vous avez encore ces grands volcans blancs, cette Cissotihuatl, vous avez le Popocatépetl, ces grands volcans qui montent à plus de 5000 mètres d'altitude. Comment sont ces deux hommes? Qui sont-ils plus exactement? D'un côté, vous avez Montezuma. Montezuma, c'est le stéréotype du prince, de l'empereur indien. C'est un homme qui est très grand, qui est bien proportionné. On connaît un peu sa façon de vivre, sa façon de réagir grâce aux chroniqueurs, à la fois indien, à la fois espagnol. On sait qu'il avait des gestes extrêmement mesurés. Comment je pourrais vous dire? On avait l'impression que c'était un prêtre, en fait, en même temps. Que c'était quelqu'un qui avait cette solennité des grands personnages, qui avait l'habitude de monter sur les pyramides, avait l'habitude d'officier. Il était tout à la fois. C'est un régime qui est encore théocratique. On commande grâce à la religion et surtout grâce au sacrifice humain. Alors d'allure, c'est quelqu'un qui a les cheveux très longs, comme on s'imagine un Indien. Il a peut-être quelques poils au menton, parce que c'est assez rare, cette race asiatique. Ces Aztèques trouvaient que si on avait un peu de barbe, quitte à en porter une fausse, c'était quelque chose qui faisait plus noble, qui donnait de l'importance au personnage. On comprend mieux comment celui qui est en face, c'est-à-dire Cortés, qui n'a pas un teint ocre, qui n'a pas ce côté jaune qui est asiatique, avec une barbe bien fournie, ça a dû troubler énormément ces Indiens, parce que d'abord casqué, cuirassé, avec des manières totalement différentes, c'est un gentilhomme très moyenâgeux, et c'est quand même quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire. Là, je parle déjà de la suite de notre aventure de l'Eldorado, parce qu'au fond, Cortés, c'est le seul universitaire de l'histoire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'une université peut représenter. Il a été à Salamanque, il a fait du droit, il est devenu ensuite soldat, il a connu tous les camps militaires, mais c'est, je crois, peut-être le plus intelligent des conquistadors. C'est celui, en tout cas, qui va servir d'exemple à tout le monde, y compris à son petit cousin Pissarro, qui va envahir tout le Pérou. Alors, c'est quelqu'un qui est très vif aussi, qui est très jeune. Il a une trentaine d'années, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un des plus jeunes conquérants de l'Amérique. Et il a un regard qui a toujours été décrit comme extrêmement dur, extrêmement sévère. Bon, alors sa barbe, ça c'est vrai qu'elle cache une ossature très vive, on a l'impression de quelqu'un qui est un peu taillé à la hache. J'insiste un peu sur ce portrait parce que ce côté bardé de fer, ce côté moyenâgeux, ce côté extrêmement vif, c'est complètement en opposition avec ce Montezuma qu'on a en face, qui au contraire porte des joyaux, des plumes sur la tête. C'est un aigle impérial, un aigle royal que vous avez en face. Donc c'est vraiment totalement antagoniste. Et puis dans les manières aussi. Alors maintenant, vous avez ces deux hommes face à face. Vous avez d'abord Cortés, que je vois plutôt comme une sorte de héros de la Renaissance en même temps. Et vous avez surtout chez lui l'assurance. Ça, c'est quelque chose de très important. L'assurance d'être le civilisé, d'être convaincu de la grandeur du monde espagnol, de la grandeur de Rome, c'est-à-dire de sa religion. Et il est là uniquement pour jouer un rôle. Et il n'est pas là pour faire la guerre au départ. Il est là pour imposer des lois qui sont des lois occidentales. Il veut surtout imposer une morale qui est bien chrétienne à tous les Indiens. C'est vraiment une idée un peu, un message messianique, quelque chose qui doit avoir une certaine rigueur, un dogme qui demande obligatoirement la soumission absolue salut de tous les Indiens qui sont en face. Alors ça nous explique quand même, quand on a un seul Dieu, le Christ, et il avait une bannière pour cela, il avait vraiment une idée de croisade quand il a traversé l'Atlantique ou qu'il est parti de Cuba, et en même temps, il veut d'une seule fois obtenir gain de cause en fonction non seulement de Rome, mais également pour offrir un morceau supplémentaire à la couronne. Donc on voit bien ce double jeu qui rend la chose extrêmement difficile. Il tient pas forcément à être un marchand d'esclaves, mais il a en même temps une certaine cupidité par logique, parce que si politiquement il est obligé d'obtenir quelque chose, il a en même temps ce côté mystique. Alors je mélange les deux, c'est-à-dire vous avez l'or, ça c'est notre côté Eldorado bien sûr, vous aurez des serfs bien sûr, et je dis des serfs, des esclaves possibles, c'est aussi de l'argent. Colomb n'avait pas trouvé d'autre moyen puisqu'il n'avait pas trouvé d'or, c'est lui qui a inventé l'esclavage américain. Et puis il faut surtout que tout cela soit ramené vers cette Espagne catholique. En face, je suis obligé de prendre le poids de l'Indien, c'est-à-dire que Montezuma, c'est un héros, c'est vrai, il est peut-être la figure la plus importante de l'Amérique entière à l'époque. Il incarne, ça c'est difficile à expliquer pour un occidental, il incarne en fait le destin de son peuple. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire va être, non pas critiqué, mais au contraire va être imité totalement par ceux qui le suivent. C'est-à-dire du plus petit indien, de l'enfant à la femme, qui que ce soit, va devoir imiter la position de celui qui tient tout en main. C'est vraiment un faisceau de pouvoir et en même temps, il est sur terre la volonté des dieux. Il est un dieu sur terre, donc il a tous les symboles d'une religion en main et le peuple, on le comprend immédiatement, doit être totalement passif par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment de cette bataille qu'on sent déjà possible? Bon, on va au contraire essayer de freiner tout cela. Cortés est intelligent, il se dit, bon, maintenant je suis sur la place. Aujourd'hui, on vient de parcourir 400 km, on est arrivé au milieu d'un million d'habitants, vous êtes là sur un lac, vous savez qu'il y a 200 ou 300 000 personnes qui vivent autour de vous, vous êtes avec 400 personnes seulement, et vous êtes tout à coup au milieu d'une ville, au milieu d'une lagune, et vous ne connaissez personne, ni qui que ce soit. On attend le plus longtemps possible, on essaie de voir qui est l'autre, et en fait ce qui est curieux, c'est que l'Indien fait la même chose. Il accepte d'inviter Cortés à l'intérieur de la capitale. Ça, c'est la dernière fois, on a vu un peu comment on a eu différentes batailles, comment l'Indien a réagi en étant ami et ennemi à la fois, mais cet accueil final, c'est surtout parce que Cortés est pris pour un dieu. Il est pris pour ce fameux serpent à plumes précieuses, Quetzalcoatl, et curieusement, il est arrivé dans une année, l'année 1519, était prévue comme une année possible du retour de ce dieu. Parce qu'on attendait toujours l'année de la naissance, je ne vais pas vous faire un cours sur le calendrier aztèque, mais simplement que l'année 1 du roseau, c'était l'année de naissance de ce dieu. Et quand il est parti sur l'océan, bizarrement l'océan Atlantique, quand il a lui-même flambé sur son radeau et qu'il s'est transformé en l'étoile Vénus, ce serpent à plumes précieuses avait dit « Je reviendrai le jour et l'année de ma naissance ». Et curieusement, Cortés est arrivé exactement l'année où il fallait revenir. Donc il y a aussi cette curiosité de savoir, est-ce que cet étranger est le messager du Dieu? Est-ce que c'est un peu du Dieu sur Terre? Donc il y a eu ce doute. Et malheureusement, il suffit d'attendre un peu et puis c'est déjà trop tard. Et le drame de Montezuma, de l'empereur aztèque, pour moi, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un drame de la foi. C'est exactement ce qu'on ressent. Il ne croit plus en ses dieux parce que tout à coup, il en a peut-être un en face. C'est-à-dire qu'il doute de tout le système. Et Cortés, lui, au contraire, il est bien précis. Il sait exactement où il va et pour qui il travaille. Il a sa croix brodée sur son étendard, qui a d'ailleurs la forme d'une épée, on sent qu'on est vraiment croisé, et c'est vraiment lui qui doit vaincre, il sait qu'il va vaincre et qu'il va réussir. Donc il y a une différence totale au moment où ces deux hommes méditent, là j'imagine l'un en face de l'autre, mais l'angoisse, ce côté irrésolu de l'empereur, c'est pas forcément visible sur son visage parce que c'est quelqu'un d'assez futé, l'Indien est futé par essence, et il cherche, en introduisant Cortés sur la place, il cherche en même temps à le piéger, et ça Cortés le sait bien. Donc vous voyez l'instant maintenant, on s'est rencontrés sur cette digue, sur cette lagune, avec ces milliers de pirogues autour de vous, ces cortèges flamboyants des deux côtés, quelques chevaux qui cavalcadent sur ces pavés, et vous avez Cortés qui passe maintenant au cou de Montezuma son collier de perles. Il avait prévu un collier de perles, on le sait, c'est curieux, parfumé au musc, hein, c'est tout l'Orient qui arrive par le côté atlantique, et de l'autre côté, bah, il va recevoir une guirlande de coquillages avec des petites crevettes en or, ça c'est le cadeau qu'on connaît de Montezuma. Tout ça a disparu, bien sûr, et je parle des trésors de cet Eldorado aztèque, qui va même être pris par des corsaires, le peu qu'il en restera. Donc en fait, on n'a plus aucun témoignage de cette époque, si ce n'est peut-être une coiffe de plumes extraordinaire qui est aujourd'hui dans un musée de Vienne, parce qu'ayant été envoyé par Cortés à Charles Quint et son frère étant en Autriche et lui-même étant déjà un Habsbourg en 1519, obligatoirement les plus beaux objets de plumasserie, les quelques objets du trésor qui n'ont aucune valeur au XVIe siècle, sont aujourd'hui au musée d'ethnographie de Vienne. Alors maintenant, vous imaginez l'Espagnol qui est descendu de son cheval. Selon les lois occidentales, il a envie de faire ce qu'on appelle l'abrazo, c'est-à-dire d'ouvrir les bras face à l'empereur. Mais immédiatement, les princes qui sont présents, les princes indiens, vont le retenir. C'est un crime de lèse-majesté, parce que personne n'a même le droit de regarder Montezuma. Donc, il n'a pas le droit non plus de toucher ce seigneur qu'on appelle le seigneur emporté, le seigneur respectable, enfin, c'est son titre réel. Donc, uniquement quelques petites paroles de courtoisie, enfin, quelques paroles échangées grâce à l'interprète qui est Doña Marina, cette esclave princesse aztèque qui avait été trouvée en route et qui parle ainsi deux langues, avec le maya, avec l'aztèque, avec quelqu'un qui parlait maya, on finit par arriver à l'espagnol. Vous imaginez ce dialogue assez difficile entre deux mondes. Et puis enfin, le monarque reprend son chemin vers Tenochtitlan. Alors voyons un peu ce qu'est Mexico Tenochtitlan, qui est le nom complet de cet endroit. C'est un endroit de rêve, parce que quand on lit les chroniqueurs, là je pense à Bernal Díaz del Castillo, qui est un peu le jeune secrétaire de Cortés, et qui à l'âge de 80 à 90 ans, sur une dizaine d'années, va écrire ses mémoires, jour après jour, heure après heure. Il va reprendre toute la conquête du Mexique avec des détails, ça semble presque incroyable au point de vue mémoire, ça veut dire qu'il avait des notes et qu'il les avait prises à l'époque, et il nous décrit cette première image de Mexico comme étant quelque chose qui leur a véritablement coupé le souffle. J'ai toujours beaucoup de peine quand j'atterris à Mexico ou quand j'y arrive par le train ou à pied même, depuis les volcans, de recréer cette première image. Vous avez un diamètre énorme de 80 km, grosso modo, c'est une cuvette très douce avec tous ces volcans en forme régulière autour, ces cols, enfin ces montagnes, cette sierra. Et vous avez au centre, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est-à-dire à peine un coin vers l'aéroport qui est encore un peu humide avec quelques salines, un lac très peu profond qui est utilisé justement pour récolter, c'était la partie saumâtre hein, de la lagune, pour récolter ce sel, on y a fait des énormes colimaçons qu'on voit très bien d'avion quand on décolle. C'est la seule partie un peu désertique actuellement de cette immensité de 18 millions d'habitants qui déborde de partout. Eh bien, à l'époque, c'était au contraire un lac qui aujourd'hui a été asséché, enfin il a été asséché à partir du 18e siècle par les jésuites, un lac et au milieu de ce lac, une forme ovale construite, c'est-à-dire la ville elle-même, qui en fait était entièrement constitué par des petits îlots qu'on avait peu à peu agglomérés. C'est-à-dire qu'en fait, on avait construit des radeaux avec des branchages. Sur ces branchages, on avait simplement déposé de la boue et on y avait fait des petits jardins, ce qu'on appelle les jardins flottants, les fameux jardins de Xochimilco existent encore. C'est comme cela qu'existait la véritable ville de Mexico, Tenochtitlan. Donc, petit à petit, cette ville avait grossi et on avait créé ensuite des liaisons pour aller jusqu'à la terre ferme. Et là, j'insiste un peu, parce que c'est important pour la bataille et pour tout ce qui va se dérouler, c'est qu'il y avait trois grandes voies qui partaient, une au nord, une à l'ouest et une au sud. Et maintenant, vous êtes sur cette voie qui vient du sud, du sud-est, hein, et vous avez déjà parcouru quelques kilomètres sur le lac, à pied sec, avant de voir cette ville, avant de pénétrer dans cette ville. Donc c'est un travail énorme, ces grandes digues, qui permettaient justement de découper le côté salé du côté doux, parce qu'après tout, il fallait aussi boire, il fallait aussi vivre, il fallait aussi que l'agriculture puisse se développer au milieu de ce lac. Il y avait même des aqueducs qui venaient de la montagne pour apporter l'eau douce jusqu'au centre de la cité. Alors ces immenses chaussées, c'est important aussi parce que là, j'ai carrément envie de vous faire vivre cette bataille heure après heure, même si on reprend encore une heure supplémentaire. Il y avait des coupures, bien sûr, parce qu'il fallait que chacun puisse utiliser le moyen de transport de l'époque. C'est vrai que je crois que la chose qui m'a demandé le plus d'imagination, c'était d'arriver à vivre, surtout phoniquement, dans cette ville. Pas un seul animal de trait. Donc il n'y a pas de chevaux, il n'y a rien du tout au moment des Indiens. Il n'y a que ces pirogues complètement silencieuses sur le lac. Et puis ce sont des gens qui ne font pas de bruit. L'Indien est à pieds nus. Le porteur a éventuellement des petites sandales, mais ce sont des gens qui trottinent très doucement, ils portent tout sur leur front. Donc un trafic complètement piétonnier. Donc les seuls sons, les seules choses qu'on puisse entendre, les seules rumeurs de cette ville, c'est ce qu'on va apercevoir dès l'arrivée. Ce sont ces immenses pyramides rougeâtres qui sont placées au centre, dans ce qu'on appelle le Théocalli, l'endroit des dieux. Il y a plus de 70 pyramides uniquement dans l'enclos principal de Mexico, Tenochtitlan. Et un peu plus loin, une deuxième ville qui est un peu jumelle, qui est Tlatelolco, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et si je vous situe simplement cela, c'est parce que c'est vrai que ce qui est troublant, c'est ce côté obligatoire des pirogues, ces milliers de pirogues qui transitent avec la terre beaucoup plus encore que par les voies terrestres. Il y a des ponts-levis qui permettent justement le passage de ces embarcations. Et quand je dis ponts-levis, vous avez déjà compris qu'on pouvait les lever, donc éventuellement isoler complètement cet îlot central, cette ville véritable. Donc ça, il y a une sorte de coupure dans les communications qui était dangereuse par rapport aux Espagnols. Et puis les maisons elles-mêmes, par rapport à ces îlots qui ont été construits presque de main d'homme, ben, on estime qu'au moment où Cortés est arrivé, il devait bien y avoir 60 000 demeures et palais, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus que toutes les villes d'Europe pouvaient avoir de fastueuses. C'est-à-dire même Venise, qui serait la comparaison réelle avec Mexico-Tenochtitlan, était une petite ville au XVIe siècle comparativement. Alors maintenant, vous êtes arrivé là, au milieu de cette lagune. Vous avez ces jardins qui foisonnent, ces îlots avec de la verdure, des fleurs. Et vous vous êtes installé dans un des palais principaux que vous a offert l'empereur, c'est-à-dire le palais de son propre père. Vous êtes vraiment au pied de ces immenses pyramides rougeâtres, ce beau rouge sombre, autour de ces palais qui, eux, sont peints avec des toits verts, des toits bleus. Enfin, un endroit absolu de rêve. Sur la grande place carrée de Mexico, Tenochtitlan, vous aviez tous ces édifices, enfin les principaux édifices de la ville. Je pense au temple, au palais, au sanctuaire, et parmi ceux-là, ce palais, où résident maintenant Cortés et sa petite troupe. C'est le palais d'Axayacatl, qui était le père de Montezuma, je le disais tout à l'heure. C'est une résidence, bien sûr, mais vous êtes au cœur, comment dire, vous êtes dans la place politique et religieuse, vous êtes dans le centre politique et religieux de tout l'État. Et quand je dis État, ça veut dire quelque chose qui va jusqu'au nord du Mexique et qui va carrément plus bas, vers le Guatemala. C'est-à-dire quelque chose d'énorme. Au moment où Cortés arrive, c'est l'extension majeure des Aztèques. Et au nord de la place, vous avez une avenue qui part directement vers Tlatelolco. Et quand je dis Tlatelolco, je vois immédiatement, il existe encore les ruines de Tlatelolco, ce qu'on appelle toujours la place des trois cultures qui a été construite à partir des années 60. On retrouve là un deuxième temple énorme avec 140 marches qui montaient comme cela à 60 mètres de hauteur. Donc c'était vraiment des buildings pour l'Amérique qui étaient parmi les plus hauts du monde. C'est vrai que ça devait beaucoup impressionner de voir ces deux pôles comme cela par rapport à cette ville qui au contraire était construite avec des maisons d'un seul étage et dans cette verdure et cette eau. Alors si je parle de Tlatelolco, c'est parce que c'était l'endroit commercial. Il y a une description qui est absolument sublime, qu'on a essayé de refaire avec des petites maquettes dans le musée d'anthropologie de Mexico, c'est le marché. Le plus grand marché d'Amérique. 60 000 personnes se retrouvaient sur cette place pour échanger, simplement par troc, tous les produits dont on pouvait rêver. Et quand je parle de produits, bien sûr que c'est ce qui a beaucoup touché les Espagnols. Ils ont immédiatement vu le coin des orfèvres, ça c'est normal, il y avait de l'or. Mais ils ont été très troublés par l'importance de la plume, les plumes précieuses de toutes les jungles d'Amérique. Ils ont été troublés aussi par la quantité de miel. Il y avait un coin entier pour les esclaves. On vendait du tabac, tiens, quelque chose de complètement nouveau. Ce tabac qui était une plante non seulement inconnue, mais ils avaient cette espèce de curieuse habitude de pomper cela par des tubes, et puis vous avez cette fumée bleue qui sortait par le nez, les Espagnols en parlent toujours. Bah, c'était vraiment quelque chose qui avait l'air d'être complètement étranger. Il fallait bien être indien pour fumer ce genre de choses. Hein. Ça a quand même fait le tour du monde petit à petit. Et il y avait une double enceinte qui séparait ce coin du marché, qui était bouillonnant comme cela, de cet enclos où étaient les temples, les grands temples de Tlatelolco. Il y avait un temple qui dominait tous les autres, et je vous en ai déjà parlé, mais c'est celui qu'on connaît au Mexique comme étant celui de Huitzilopochtli. Un nom un peu difficile à prononcer, mais c'était le vrai dieu de la guerre. Ce dieu qui correspondait à l'énergie solaire, celui qui luttait sans arrêt pour répéter même l'énergie journalière. C'est-à-dire qu'il devait être, vous le comprenez déjà, alimenté pour pouvoir continuer à avancer et à survivre. Et il était sculpté dans une sorte de silhouette massive comme ça, qui était posée à l'intérieur du temple. On y avait incrusté des jadéites, des turquoises. Il y avait des colliers en forme de serpent. Là, je reprends carrément mentalement les descriptions des Espagnols, des masques d'or, enfin, tout cela étincelait un peu lugubrement dans l'ombre du tabernacle. Et c'est vrai que quand l'Espagnol a vraiment rencontré ce dieu, il s'est rendu compte que son aliment préféré, c'était le sang humain, c'était les cœurs humains, bien sûr. Et je crois que l'autre chose, j'ai parlé du son tout à l'heure, mais essaye d'imaginer l'odeur aussi. Enfin, l'odorat, c'est quelque chose de bien curieux quand on descend pour la première fois d'un avion et qu'on va vers le premier marché indien au Mexique. Je crois que c'est quelque chose qui nous trouble aussi. C'est d'abord dans ces avenues aztèques, je vous ai dit, il n'y avait pas de bruit familier, il n'y a rien qui ressemblait à l'Europe, mais il n'y a surtout aucun parfum de chez nous. Il n'y a pas un seul bruit de charrette, il n'y a aucun animal, donc il n'y a pas d'odeur non plus animale, qui est une chose qui en Europe devait être très forte. On sent plutôt l'odeur des voitures aujourd'hui et la pollution. Mais tout étant transporté comme cela par barque ou par dos d'homme, ce côté monotone un peu doux, bah, ça ressemblait presque à des vibrations de la mer. La seule chose qu'on devait entendre, c'était les tambours, ces fameux tambours de bois, et puis les appels très aigus de ces conques marines qu'on utilisait au sommet des temples. Et de temps en temps, peut-être un choc d'un outil, enfin un orfèvre ou un sculpteur. Et puis les odeurs, c'est surtout par rapport aux sauces, vous savez, ce côté pimenté du Mexique. C'est quelque chose d'assez âcre, assez curieux. L'Indien lui-même n'a pas d'odeur. C'est quelqu'un qui est toujours très propre. L'Aztèque a appris à l'Espagnol à se laver. Les Aztèques, au féminin, bien sûr, ont surtout appris aux soldats espagnols à enlever leurs armures de temps à autre et à passer au bain public ou au bain de vapeur, qui était déjà très courant. Et bien, la seule odeur qui devait être un peu gênante, à part le côté encens de tous ces temples qui fumaient constamment, c'était bien sûr ce relent de temps à autre de boucherie qui venait par exemple de Tlatelolco ou de Tenochtitlan le jour des sacrifices. A quitté en fait Sempoala au début, enfin à mi-août grosso modo. Vous êtes toujours en 1519, vous êtes toujours en cette année 1 du roseau, cette année un peu magique du retour du serpent à plumes précieuses. Vous étiez tout à l'heure en ma compagnie sur cette artère de Mexico, cette entrée même dans Mexico, Tenochtitlan, c'était le 8 novembre. Bah, il faudra seulement 3 mois pour parcourir pratiquement 400 kilomètres. C'est un temps, moi j'appellerais ça un temps record, parce que si on voit les difficultés qu'on a eues, c'est-à-dire partir de ce littoral avec, je sais pas, 400 Espagnols, grosso modo, sans savoir exactement où on allait. Et on se retrouve finalement à Mexico. Et dans cette place, sur cette place, au cœur de l'Empire, on est maintenant pris au piège, c'est vrai, un peu dans ce palais de Montezuma. Bien sûr, on va vous rendre hommage. On sait que vous avez derrière vous une armée de plusieurs milliers d'Indiens que vous avez réussi à soulever contre l'Aztèque. Mais en fait, la position n'est pas aussi claire qu'on pourrait le croire, car la seule chose qu'on remarque, c'est que Cortés a l'a prouvé par cette montée vers Mexico, avait une science militaire extraordinaire. Il avait sa cavalerie, il avait l'artillerie, c'est vrai. Il avait des chiens, très important, des chiens qui aboient. Quand on a des tout petits chiens qu'on peut engraisser et manger et qui n'ont pas de voix, qui sont ces chiens sans poils du Mexique précolombien, quand vous avez des énormes dogs, genre danois comme ça, qui peuvent attaquer l'Indien, ça, c'était aussi impressionnant qu'un jaguar, enfin, un animal féroce. Il y a les sabres, bien sûr, en acier. Le métal n'existe pas, même s'il est utilisé en orfèvrerie pour l'or, l'argent, éventuellement un tout petit peu de cuivre. Mais on utilise encore des lamelles d'obsidienne, cette pierre vitrifiée, ou du silex pour attaquer l'espagnol. Et ce qu'il faut mettre dans la balance de l'autre côté, c'est bien sûr le nombre. Parce que ça on n'a aucune idée. L'espagnol s'était très vite habitué à faire un calcul absurde. C'est-à-dire, dans la bataille de Tlaxcala, grosso modo, bah, on disait, oui, un contre mille, ça peut encore aller. C'était vraiment de la folie furieuse. C'est-à-dire, souvent, par rapport à plusieurs dizaines de milliers d'Indiens, vous étiez un groupe de 50, 100, 200 Espagnols en face. Et vous arriviez encore à gagner avec une certaine stratégie. Alors là je ne vais pas rentrer dans cette polémique de la différence des deux mondes. Mais c'est quand même intéressant de voir que jamais un Indien n'avait pensé qu'on attaquait pour tuer, qu'on attaquait pour simplement conquérir quelque chose. Non, lui attaquait simplement pour obtenir son frère prisonnier et pouvoir le ramener vivant à l'endroit où, alors là, oui, on le tuerait, on le sacrifiait. C'est vrai que cette différence est énorme. Donc l'attaque subie, le côté un peu féroce de l'espagnol, c'est quelque chose qui n'existait pas. Alors, on a vu cette installation, on a visité maintenant ces temples, on a découvert un peu ces dieux, et particulièrement Huitzilopochtli. Il y a une description, je ne la ferai pas, parce que ça ressemble effectivement à une scène de boucherie. C'est le moment où Cortés va visiter pour la première fois, monte ses 140 marches pour la première fois, et se retrouve dans ce temple maculé de sang avec ses sacrificateurs qui travaillent vraiment au découpage, au dépeçage des Indiens ennemis, bien sûr, sacrifiés. Plus tard, on aura même le cas d'Espagnols qui vont y passer, naturellement. Et là, les Indiens seront très contents. Leur dieu aussi, je pense. Mais cette visite des dieux, elle va obliger Cortés à changer sa position. C'est-à-dire qu'il ne va pas oser démolir. Il le fera quelques jours plus tard, mais il n'ose pas détruire les idoles comme il l'a fait en arrivant sur la côte. Donc, il va simplement demander l'autorisation à cet empereur, qui est soi-disant son ami, qui l'accueille, de construire une chapelle. Alors, je vous raconte cette scène parce que c'est l'Eldorado pur. Là, c'est vraiment le début d'une immense légende. C'est le moment où vous êtes dans ce palais. On a peine à s'imaginer un palais avec ses tentures, ses poutraisons très basses, ce côté très frais, ses toitures plates, où résidaient les troupes espagnoles. Un immense palais qui, en fait, aujourd'hui est remplacé par celui qu'on connaît, c'est-à-dire le grand palais de Cortés, sur la grande place face à la cathédrale de Mexico. Eh bien, là, il demande donc l'autorisation de faire une chapelle, et on cherche le meilleur emplacement. Alors, on essaie de trouver à l'intérieur du palais quelque chose qui pourrait correspondre. Et puis, finalement, on fait démolir une partie d'un mur, lorsqu'on a l'autorisation, pour pouvoir créer l'abside, c'est-à-dire l'hôtel, l'endroit où on va mettre l'hôtel. Et bizarrement, en faisant tomber ce mur, et il y a des hasards fous, on tombe sur le trésor d'Axayacatl, c'est-à-dire sur le coffre-fort absolu de l'Empire, c'est-à-dire tout ce que le père de Montezuma avait réussi à trouver comme orfèvrerie, bien sûr, mais aussi comme pierre, enfin comme joyaux les plus prestigieux. Alors ça, c'est quelque chose qui va troubler les Espagnols, parce que les cadeaux qu'ils ont reçus jusqu'à maintenant, les prises aussi que ces soldats ont pu opérer. Je vous rappelle la prise de Cholula, où on a fait 3000 morts, on a pillé complètement un centre cérémonial à 100 km de Mexico. C'était quelque chose de totalement misérable par rapport à cet amoncellement incroyable d'or et de pierreries que maintenant Cortés avait devant lui. Alors, on devait tenir cela, soi-disant, fallait conserver le secret, en tout cas, pour éviter toute pagaille. Mais au bout d'un certain temps, tout le monde a commencé à murmurer. Alors, vous voyez la situation. Vous êtes à 400 km de la côte. Vous êtes au milieu de ces millions d'indigènes. Vous avez devant vous un coffre ouvert. Et on vous demande de rester là. Si au moins on se battait, parce qu'on était très moyenâgeux dans la réaction, non, on voulait rentrer chez soi. L'Espagnol qui s'était embarqué depuis Cuba ou même depuis l'Espagne se disait, maintenant je peux remplir mes poches, j'aimerais bien rentrer à la maison, j'ai tout ce qu'il faut, ou en tout cas me retirer sur une île et puis m'offrir une plantation. Alors, on voulait partager ce butin. On ne sait pas exactement quelle est la quantité d'or, mais enfin, il y a certainement plusieurs centaines de kilos d'or qui vont être fondus en lingots, c'est la première idée des Espagnols. Et on apprend aussi qu'il y a de mauvaises nouvelles. Là, vous voyez, vous êtes en situation, et en même temps, à 400 km, on vous apprend qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de Veracruz. Et que là, lorsqu'une partie de la garnison espagnole était sortie en direction de Nautla, c'est une petite ville qui existe encore sur la carte, eh bien, un seigneur de l'endroit avait pris les armes contre ce corps expéditionnaire et avait tué des Espagnols. En fin de compte, c'est la première fois que 6 Espagnols étaient tués. Et on m'a même envoyé une des têtes à Mexico, Tenochtitlan. Est-il besoin de vous expliquer que cette première tête d'Espagnol qui arrive à Mexico, c'est bien l'idée de la trahison, c'est bien l'idée d'une vengeance indienne. Montezuma, tout sourire, tout miel, vient de prouver qu'il était capable, par personne interposée, d'attaquer les Espagnols dans le dos. Ça, c'est très dangereux, puisque vous êtes à 400 km et vous savez qu'en bas, on peut vous attaquer et vous couper toute retraite. Vous me direz que Cortés avait déjà abandonné ses bateaux, qu'il les avait échoués dans le port, qu'il savait qu'il n'avait plus de solution de recul. Mais tout de même, il n'aimait pas laisser les choses derrière lui. Alors, si là, maintenant, ces gens ont été blessés, ont été tués, il faut réagir très violemment. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez cette échauffourée d'un côté, vous avez le trésor de l'autre. Pour ne pas perdre tous ces avantages qu'on vient d'acquérir, il fallait vraiment frapper un grand coup. Lequel auriez-vous choisi? Cortés va simplement décider de s'emparer de la personne de Montezuma. Un coup qu'on va reprendre très souvent dans l'histoire américaine, mais c'est le premier coup aussi culotté que les conquérants vont prouver comme étant une solution assez bien sentie par rapport à la mythologie précolombienne, par rapport à la religion de ces gens-là. Parce qu'au moment où on va prendre l'empereur en résidence surveillée, obligatoirement, tout va s'arrêter. Toute idée de velléité, de résistance dans la capitale aztèque vont se bloquer. Et ça paraît curieux parce que Cortés, à partir de là, il va jouer sur un autre tableau qui est absolument affolant. Il va oser ce qu'il n'avait pas osé la première fois, c'est-à-dire qu'il va détruire les dieux. Il va monter carrément sur le sommet de ce théocalli avec une barre de fer. On voit ce personnage, hein, toujours avec sa cuirasse, avec son casque et son cimier, et qui renverse, mais avec une rage extraordinaire, ces statues de Huitzilopochtli, de Tezcatlipoca, de Tlaloc, enfin ces noms qui font rêver, dieu de la pluie, dieu des ténèbres, dieu de la guerre. Et là, on peut aussi comprendre, déjà rien que le son, cette immense pyramide de 140 marches de 60 mètres de hauteur, et en bas, des nobles, des prêtres, des milliers d'habitants qui entendent, qui savent qu'on est en train de détruire leur divinité, c'est quelque chose qui a dû résonner très fort dans le cœur des Aztèques, parce que s'imaginer qu'après on a osé non seulement nettoyer le temple, mais qu'on va le blanchir carrément à la chaux pour supprimer tous les décors et tout ce que l'Aztèque avait soigneusement gravé ou mis en valeur, ou même baigné de sang, parce que c'était la matière absolue de l'énergie de ce soleil qui se nourrissait comme cela, et de ce dieu de la terre qui buvait ainsi le sang, on mangeait les cœurs et on buvait le sang, vous comprenez bien que c'est toute une idée agricole, c'est toute une façon de créer la renaissance et la régénération du monde et du cosmos. Alors, y mettre à la place un autel avec la Vierge, c'était vraiment d'une audace qui a dû en même temps traumatiser les Indiens. Et au sommet de la chapelle, on va planter une croix. Et c'est là que le père Olmedo, qui accompagne l'expédition, va célébrer sa première messe à Mexico, Tenochtitlan. C'est vraiment une scène qui est complètement dantesque, baroque. Et là, bien sûr, on va vider ensuite le contenu de la chambre du trésor d'Axayacatl. On va partager tout cela, celle qui sera donnée au roi d'Espagne, parce qu'on avait déjà instauré depuis 1492 ce qu'on appelle le quin royal, et il ne faut pas oublier cette part, c'est cinquième qui va être offert au roi, enfin déjà à Charles Quint, puisque maintenant il est monté sur le trône de ce Saint-Empire, romain germanique. Et Montezuma, eh bien, il va, ça c'est curieux, il vient d'être fait prisonnier et il va même donner son trésor personnel à Cortés, c'est-à-dire qu'il va rajouter une part en disant, ben mon Dieu, puisque vous avez déjà tout pris, ben je vous fais encore quelques présents, comme ça vous aurez vraiment tout. Donc ça c'est encore un aspect qui montre le fatalisme de ces Indiens. On a beaucoup de peine, je crois qu'on pourrait faire une étude pendant des années sur qui est Montezuma, et chaque fois on est surpris par ces réactions d'Indiens. Et là, le butin est énorme, les prises personnelles, la fortune de Montezuma, ce trésor d'Axayacatl, tout cela, ça va créer une espèce d'effervescence chez les Espagnols. Peut-être qu'aucun conquérant, à part Pissarro, n'arrivera d'un seul coup à amasser autant de biens. Et dans l'histoire européenne, c'est le premier grand choc, ce trésor mexicain. Et puis, là, il y a un aspect, peut-être, je voudrais juste le soulever, parce que ça va créer certains problèmes malgré tout, c'est le fait que Cortés, lui, après Charles Quint, prend aussi le Quint, son Quint de capitaine général, enfin, puisqu'il a, il s'est donné lui-même, il a permis à la municipalité de Veracruz de lui offrir des titres pour devenir un vrai conquérant et se couper carrément de Cuba et de Velázquez et de l'Espagne elle-même. Et là, bon, l'arithmétique pour un simple soldat, ça n'est pas évident, mais on sent qu'il a pris la tête d'un revenu qui est peut-être un peu trop considérable. Enfin, il a pris une force qu'on commence peut-être à lui reprocher. Et ça devient très complexe. Alors, pour couper court à tout problème, Cortés va devoir envoyer en Europe, et ça, n'oubliez pas, vous êtes de nouveau à 10 ou 12 000 kilomètres de l'Espagne, et on pense faire une petite expédition, on n'a plus de bateau, alors on prend quand même ce qui traîne, et puis on s'arrange, on envoie quand même deux personnages importants, en leur disant, vous passez près de Cuba, mais vous faites attention de ne pas vous arrêter, parce qu'on va vous embêter, puisqu'on a quitté Cuba sans autorisation. Et finalement, et ils ne sont pas à raisonner, ils arrivent jusqu'à Séville, et là, ce n'est pas si simple, ils ont longé d'abord la Floride, ils ont monté comme ça jusqu'à l'Espagne, et ils vont gagner ensuite Barcelone, ils vont aller en Coruña, ils vont aller jusqu'à Tordesillas, où ils cherchent la reine Jeanne, enfin, ils essayent de créer une sorte de publicité pour Cortés. Il y aura son père qui va s'en mêler, mais il y aura des ennemis, bien sûr, il y aura des gens qui diront « Non, il a usurpé certains droits, il a pris ce pays sans aucune autorisation ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on va envoyer, non pas de l'Espagne, mais de Cuba, des gens pour attaquer Cortés, pour reprendre ce bien un peu volé à la couronne, même s'il s'était autorisé des droits qu'il n'avait pas sur place. Et là, il va être rejoint à Veracruz par les troupes de Navarrés. Et vrai que c'est important parce que ce Navarrés, il s'installe à Sempoala, c'est-à-dire d'où est parti Cortés. Il est là pour quitter ce pouvoir à Cortés, donc il va s'entendre avec les Indiens, donc il va s'entendre avec Montezuma. Vous voyez que l'intrigue devient de plus en plus complexe. On sent que Cortés est de plus en plus isolé à l'intérieur de ses terres. Alors, une sorte de toile d'acier, une toile d'araignée qui se forme autour de lui. La seule solution, c'est de rassembler ses forces. Attention, ça fait 70 personnes, ça n'est qu'une goutte d'eau. et il fonce carrément sur la côte. Il refait ses 400 km au pas de charge dans l'autre sens avec quelques chevaux et il désire laisser derrière lui le minimum, c'est-à-dire de nouveau 60 ou 80 personnes, avec à leur tête Pedro de Alvarado, le futur conquérant du Guatemala, qui se trouve totalement seul maintenant avec une poignée d'hommes au milieu de Mexico qui commence à entrer en ébullition. Parce qu'il devra défendre Mexico, il devra défendre Montezuma qui est prisonnier et surtout ce coffre-fort, ce trésor qu'il faudra protéger aussi. Alors là, ça commence à devenir compliqué parce qu'ils sont peut-être 500 avec les Indiens à créer une sorte de garde autour de ce palais. Et ils tombent malheureusement pendant une des plus grandes fêtes aztèques. Vous avez des milliers d'Indiens emplumés avec leurs tambours, avec leurs conques, qui se rassemblent sur la place. Cortés avait autorisé cette grande fête à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, et il l'avait autorisé pour autant qu'il n'y ait pas de sacrifice humain. Or, Alvarado apprend pendant cette fête qu'on a déjà sacrifié deux jeunes gens. Donc c'est son prétexte. Il se dit qu'il n'y a qu'une solution, c'est de faire ce que Cortés, et c'est faux, aurait peut-être fait, c'est-à-dire attaquer. Et là, avec quelques hommes, quelques canons, quelques arquebuses, il va décider d'attaquer de manière extrêmement violente et de frapper un coup décisif, c'est-à-dire de tuer un maximum de monde sur cette grande place. Alors, vous voyez la scène, c'est une scène extrêmement dure. Vous avez au centre la statue de Huitzilopochtli, vous avez cette idole avec tous ces personnages qui se pressent autour, qui sont couverts d'insignes, vous avez des prêtres barbouillés de noir, enfin, il y a une ambiance un peu sordide comme cela, et des jeunes filles qui dansent avec des plumes rouges, des enfants qui agitent des palmes. Enfin, on connaît un peu ces scènes des grandes fêtes aztèques, les tambours, le sifflement des flûtes aussi, qu'on oublie un peu, ces flûtes souvent faites avec des tibias, des ossements humains. Vous avez les danseurs qui frappent en cadence le sol. On les voit encore aujourd'hui devant certains sanctuaires comme celui de Guadeloupe avec leurs conques, avec leurs coquillages autour des chevilles. Et maintenant, vous avez en même temps cette... ça a été peut-être le moment le plus dur pour les Espagnols, c'est que si on leur avait interdit le sacrifice, ils avaient quand même choisi les enfants. Et on incisait exactement l'endroit où on devait les tuer par la suite. Donc on avait quand même conservé tout le rituel de cette fête. Et à ce moment-là, bien, si Alvarado a réagi, on peut peut-être le comprendre. Et il y avait peut-être 2000 personnes. Et là, d'un seul coup, vouloir attaquer comme cela, c'était vraiment de la folie. Parce que l'attaque, c'est quelque chose qui va d'abord bloquer toute la fête. D'un seul coup, c'est normal. Mais on s'imagine le choc de nouveau, l'incompréhension absolue. Et à sortir des bombards, des canons, tirer dans la foule, les Indiens vont être complètement dégrisés en quelques secondes, mais ils vont surtout comprendre que rien n'a été compris par l'Espagnol. On lève les boucliers, on sent que tout le monde est prêt à périr, et maintenant, Mexico va devenir un immense champ de bataille, tué simplement pour libérer l'angoisse, l'énervement de ces derniers jours. Il n'était que 80. Et cette marée indienne, maintenant, elle enfle, elle se gonfle. Et Alvarado va décider de jeter son dernier atout dans cette bataille insensée, c'est Montezuma. C'est-à-dire qu'il va obliger Montezuma à apparaître, on pense certainement à un balcon, ou en tout cas en surplomb sur cette place. Et là, on voit cette silhouette qui maintenant paraît un peu frêle, avec son diadème. Bah, c'est plus qu'un fantôme, en fait. Et sa parole, c'est encore une parole qui compte. Il est encore Dieu et curieusement va encore lui obéir, c'est-à-dire que tout à coup, tout va se calmer. L'alerte a été très chaude parce que c'est peut-être un des moments les plus graves que l'Espagnol ait vécu au Mexique. Et heureusement qu'on a pu obtenir cette suspension d'armes. Le combat va s'arrêter, je le disais, mais malgré tout, on se rend compte que chacun est sur sa position et que très rapidement, les canaux vont être obstrués, les rues vont être barrées, les conduites d'eau vont être coupées. Et là, alors, on comprend que l'Aztèque a une idée bien claire, c'est enfermer carrément l'Espagnol dans Mexico. Et curieusement, il y a 3 semaines qui vont passer comme ça. Moi, je m'imagine la tension d'un Pedro de Alvarado et de ses 80 personnes qui sont coincées. Et ils attendent simplement du secours. Et on entend finalement sur cette digue le bruit de la cavalcade qui arrive, c'est Cortés qui rentre, et on fait sonner les trompettes, Cortés est de retour, et Cortés fait une erreur énorme, il a réussi un coup extraordinaire sur la côte, il a réussi à embrigader tous ceux qui étaient ses ennemis, et il a gagné maintenant une troupe beaucoup plus vaste, ils changent, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'ils arrivent à peu près à 1300 hommes d'un seul coup, parce qu'ils récupèrent tout le monde hein, en revenant sur Mexico. Tous ceux qui avaient débarqué sur les plages de Veracruz sont maintenant avec lui. Il leur avait promis monts et merveilles, et il arrive dans une ville complètement morte et silencieuse. Et là, même s'il a réussi à désarmer les 18 navires qui étaient arrivés et à recréer le coup classique de s'aborder tout ce qui pouvait rentrer vers l'Espagne ou vers Cuba, ben là, en arrivant maintenant à Mexico, il comprend qu'il vient de se faire prendre au piège aussi. Il a longé la digue, il a pénétré dans Mexico, et c'est seulement en arrivant au palais qu'il comprend son erreur. C'est-à-dire que l'Aztèque l'a bel et bien piégé, et là, le siège va commencer. C'est quelque chose qui a dû être très très dur pour les Espagnols, de se sentir ainsi bloqué avec des ennemis d'il y a quelques jours, qui maintenant sont obligés de se défendre. Il y a ce trésor, bien sûr, qu'on va pouvoir partager, et qui aide peut-être un peu à se défendre, mais il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vivres, il y a des flèches enflammées qui vous tombent dessus, le palais commence à brûler, tout ce qui est autour commence à être en ruine, et il est rentré. Bon, je crois que Cortés est arrivé à Mexico au mois de juin, le 24 juin, je me rappelle à cause de la fête de Saint-Jean, et là, et ben, il va falloir tenir, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du mois, on va essayer de résister contre ces milliers d'indigènes qui veulent absolument vous déchirer, vous manger presque, et obligatoirement, le camp se rétrécit de plus en plus, et il faut trouver une solution. Et malheureusement, Montezuma va être certainement lapidé, ou en tout cas tué par ses propres fidèles, peut-être fini d'ailleurs par les Espagnols, ça c'est le mystère absolu, il l'emporte dans sa tombe. Mais maintenant que celui-ci est mort, on va pouvoir élire un nouvel empereur, c'est Cuitláhuac qui va monter au pouvoir. Et là, alors immédiatement, on va décider d'acculer les Espagnols. Ils doivent même sortir de leur palais. Et finalement, c'est une image qui a dû être aussi assez extraordinaire, c'est de voir ces Espagnols qui, marche après marche, se trouvent coincés au sommet de cette unique et grande pyramide de Huitzilopochtli. Et là, par miracle, ils arrivent encore à gagner parce qu'ils vont risquer l'impossible, c'est-à-dire ils vont donner l'ordre de la retraite. Et ça, c'est vraiment la folie pure. C'est-à-dire, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va laisser le trésor? Est-ce qu'on le prend avec soi? Finalement, on attend la nuit. Vous imaginez maintenant cette lagune dans les ténèbres. Il faut voir aussi comment fonctionne l'Indien. C'est-à-dire, à chaque attaque, au moment où la nuit arrive, tout le monde se retire. L'Indien a peur de la nuit. Hein. Donc les garnisons, tout cela se calme, les gens dorment. Et le plan général de Cortés, c'est de gagner la terre ferme par la seule route qui n'est pas complètement bloquée à ce moment. Tout à l'heure, je vous l'ai situé, je vous ai dit qu'il y en avait une au nord, qu'il y en avait une au sud. Eh bien, on va choisir la plus aberrante, c'est-à-dire celle de l'ouest. Et là, on va tenter de parvenir jusqu'à Tacuba, qui est un endroit qui est bien connu dans la capitale actuelle du Mexique. Ensuite, on va remonter vers le nord, on va contourner tous les lacs afin de rejoindre le seul endroit qui était encore un peu ami, c'est-à-dire la petite république de Tlaxcala, où les attendaient des amis et en même temps des ennemis des Aztèques. Donc il n'y avait qu'une solution, fuir ou mourir. Ça, c'est vraiment une solution qui a dû être prise en tout dernier moment par Cortés, mais quelque chose de terrible. C'est ce qu'on appelle la nuit triste. Je vais vous décrire simplement tout à l'heure comment on a vécu ces quelques minutes, ces quelques heures pour s'échapper avec des milliers, des millions d'Indiens autour de soi et tout à coup ces centaines de pirogues qui veulent absolument vous empêcher de partir avec votre trésor. Vous avez allumé des torches, les soldats ont préparé petit à petit, découpé une fois de plus, chargé ce fabuleux trésor. Je vous ai dit que tout l'or avait été mis en barre ou en poudre ou en pépite. Enfin, les bijoux vont être qui avaient été arrachés à tous les cadavres aztèques lors de la dernière attaque. Tout ça, vous allez le mettre dans vos poches simplement. Vous allez le mettre sur. Vous allez bourrer les arçons des selles de vos chevaux. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à sortir. Alors, ils sont. J'ai plus tout à fait la mémoire des chiffres, ça n'est pas très important. Je crois qu'ils étaient 1100 au moment de la sortie. Et les autres sont morts, ils ont été faits prisonniers. Il y avait encore à peu près 1 million, qu'est-ce que je raconte, 1 millier d'Indiens qui étaient alliés. Et quelques femmes, il y avait Doña Marina, bien sûr, qui est là, une trentaine de canons, une bonne centaine de chevaux. Et la consigne, c'était simplement le silence, et alors d'aller très très vite. Parce que c'est vrai que tout Mexico, Tenochtitlan, dort encore. Il y a des rafales de flèches qui, tout à coup, leur sont tombées dessus. Il y a eu ces pierres qui vont s'abattre sur les Espagnols au moment où on va sonner l'alerte. Or, sonner l'alerte, c'est vraiment faire fonctionner le premier tambour à lamelles ou sonner la première conque. Enfin, ça a dû être. Je crois que la première chose que les Espagnols décrivent, c'est le cri d'une femme. Un cri strident, un cri de surprise. Tout à coup, en voyant ces chevaux, ces gens sur cette chaussée, ben, une simple femme aztèque a dû donner l'alerte en hurlant. Et finalement, là-haut, sur le Teocalli, vous avez les prêtres maintenant un peu forcenés qui ont repris leurs biens et qui tapent leur tambour. Ce roulement continu, ça, c'est la chose. Tous les Espagnols qui en parlent se rappellent de ce son continu du tambour de guerre qui sonnait comme cela toute la nuit. Et surtout, alors, de ce bruit étrange d'un orage, parce qu'il a commencé à pleuvoir et finalement, ils ont été pris dans une urgence de la nature aussi qui est assez extraordinaire. On a l'impression que tous les éléments se sont mis en route pour permettre cette retraite espagnole. Il y avait à la fois ce tocsin et puis en même temps cette pluie glacée qui leur tombait dessus, cette boue de partout. L'important, c'était de rejoindre la terre ferme. Alors, une fois de plus, chaque fois qu'on avançait, il fallait reculer. C'est-à-dire que s'ils rataient une brèche, les Indiens la rebouchaient. Et puis, petit à petit, on a atteint le rivage de Tacuba. Et ça, c'est un moment très dur parce que dès qu'ils seront à terre, les Aztèques vont renoncer à poursuivre les Espagnols. Ils sont trop occupés à dépouiller les morts qui flottent maintenant sur la chaussée ou le long de cette chaussée. Mais ce qu'ils préfèrent naturellement, ce sont les blessés, car ils essayent d'obtenir les blessés pour les garder pour les sacrifices humains. C'est la première fois que les Aztèques auront un butin humain aussi important. Alors les vivants qui sont sur la terre, ça c'est selon leur loi de la guerre. Ils ont réussi, tant mieux pour eux. Et cette scène qui est peut-être la plus dure, c'est celle où l'on va retrouver ce général, parce qu'il est non seulement capitaine, mais général des armées espagnoles, va se retrouver sous ce qu'on appelle aujourd'hui l'arbol de la noche triste. C'est un cyprès. Un cyprès où Cortés va carrément pleurer de toutes ses larmes, parce que c'est vrai que ça a été un des moments les plus tragiques. Il a perdu presque toutes ses troupes. Ben, qu'est-ce qui lui reste? Je crois qu'alors là, par rapport aux 1 000 et quelques du départ, il ne sont plus que 400 et quelques. Donc il y a déjà 600 personnes derrière lui lors de cette fuite qui ont soit perdu la vie ou qui vont la perdre dans les heures qui suivent. Il a encore quelques arbalètes, il a quelques fusillés. Il a dû perdre 80 chevaux, donc il doit lui en rester une petite vingtaine. Il y a encore des canons, mais ils sont pratiquement tous hors d'usage. Je cite cela parce que c'est la seule force des Espagnols. C'est la seule chose qui a permis en tout cas de gagner contre l'Indien. Et quelques Tlaxcaltèques qui les suivent encore. Il n'a pratiquement plus d'officiers. Il ne reste plus qu'Alvarado qui a fait sa grave erreur lors de ses grandes fêtes. Alors, c'est là que Cortés a dû quand même se poser notre question de l'Eldorado, de ce premier Eldorado. Est-ce que l'or portait malheur? Je pense que Cortés n'est pas loin de le penser à ce moment-là. C'était un peu un pré-bilan, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il faut prendre la direction de Tlaxcala. C'est ce que nous vivrons la prochaine fois. Mais juste avant, j'aimerais vous donner encore un ou deux éléments pour mieux comprendre ce qu'est un Aztèque et ce qu'était un Espagnol à ce moment-là. Il y avait de l'autre côté Xicotenga. Xicotenga, c'était ce prince qui finalement les avait reçus à Tlaxcala. Et lui-même va, malgré cette défaite, malgré le fait qu'il aurait suffi maintenant que vous avez pleuré auprès de votre cyprès, vous avez parcouru tout le nord de la capitale, vous avez fait le tour du lac, vous avancez maintenant en direction de Tlaxcala, vous devez repasser les volcans et vous vous retrouvez plusieurs mois auparavant. dans la même situation et bizarrement, vous êtes encore accueilli par des gens qui auraient pu vous assassiner en quelques secondes, en quelques minutes. Vos anciens amis indiens restent des amis indiens et restent surtout les ennemis des Aztèques. Et je crois que c'est là qu'on comprend mieux cette conquête du Mexique, parce que Cortés, à l'entrée de la ville, il est encore reçu comme un grand chef de guerre. Alors pour lui, ça a dû être une révélation. C'est vrai qu'il a une chance inouïe. Voilà, des mois qu'on se balade avec lui et qu'on se dit c'est pas possible. Chaque fois, il aurait dû échouer et chaque fois, il réussit. Et là, dans son plus grand moment de défaite, il est encore accueilli comme un grand chef. On s'embrasse, on s'imagine la scène où cet autre prince, cet autre empereur de la République de Tlaxcala va l'accueillir. Son prestige est resté totalement intact. C'est vrai qu'il a réussi quelque chose d'éblouissant en s'attaquant au cœur même de l'énergie aztèque, c'est-à-dire en allant jusqu'au cœur même, au théocali central, qui était le moteur du cosmos. Il a dû avoir de l'admiration pour lui d'avoir osé toucher à Montezuma, de savoir que Montezuma était mort à cause de Cortés. Donc c'est vrai que là, ces semaines qui vont passer, c'est d'abord une période de détente, parce qu'il en faudra bien un peu, ils seront fantastiquement accueillis, ils vont soigner toutes leurs blessures. Mais ce que j'aimerais vous raconter la prochaine fois, c'est surtout de savoir comment Cortés va réparer sa grave erreur. C'est-à-dire, il a bien compris que vouloir s'emparer de Mexico par l'intérieur, c'était totalement absurde. Alors, pour prendre et conserver Mexico, il faut posséder d'abord la maîtrise des eaux, c'est-à-dire s'emparer de la lagune de Texcoco, être maître du lac. Cortés n'aura plus qu'à tendre la main vers la cité aztèque, c'est ce qu'il pense. Il veut cueillir Mexico comme un fruit bien mûr. Et c'est ce que nous verrons, oui, c'est la façon dont il va petit à petit préparer l'attaque ultime qui nous amènera au 13 août 1521, le moment où pour la dernière fois brillera un peu du soleil aztèque.